Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
L'on retrouve notre invité Gilles Kepel qui publie La Fracture aux éditions Gallimard France Culture. Gilles Kepel, il est beaucoup question d'islam, qui dit islam dit islamologue. Il y a une longue tradition en France d'islamologue. Et puis on a évoqué également au printemps dernier une querelle entre des islamologues, notamment entre Olivier Roy et vous-même. Nous avons reçu il y a quelque temps Olivier Roy. Olivier Roy avec une formule qui a eu une certaine fortune où il disait qu'il ne s'agissait pas finalement d'une radicalisation de l'islam mais d'une islamisation de la radicalité. Pourquoi cette thèse ne vous convainc pas ?
Parce qu'elle fait l'impasse complètement sur toutes les dynamiques qui sont à l'œuvre dans le djihadisme contemporain et ses succès d'années. Bien sûr, la comparaison est tout à fait licite en sciences sociales et qu'on, du reste dans le livre, si vous l'avez vu, j'ai mis en épigraphe une citation de Dostoïevski dans son livre Les Possédés, vous savez, où on a démonté un énorme complot contre le système tsariste et les gens qui sont arrêtés, pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? Ben parce qu'on voulait détruire la société, on voulait la fracturer justement de l'intérieur et ensuite autour de petits groupes, tout ça. Donc la comparaison est toujours, elle est utile mais elle n'est pas raison, la comparaison n'est pas raison. Et si on dit simplement que ce qui se passe aujourd'hui c'est les brigades rouges repeintes en vert, on n'a rien compris. Bien évidemment qu'il y a des problèmes sociaux qui bénéficient de ça, on en a parlé tout à l'heure. Moi je ne nie pas du tout le social français, je sais de quoi je parle quand je parle de Clichy-Montfermeil, j'ai passé un an à y faire une enquête ce qui se passe à Marseille, à Roubaix, j'y ai aussi passé beaucoup de temps. Donc il ne s'agit pas pour moi simplement de reprendre les textes en arabe et puis de les appliquer. J'essaie de bien comprendre comment les deux s'articulent. Si on manque une dimension, si on ne comprend pas l'idéologie qui est à l'œuvre dans ce mouvement djihadiste, qu'est-ce qui fait, comment vous allez comprendre que les gens vont se faire exploser délibérément ? Si on ne comprend pas comment l'idéologie salafiste leur explique qu'ils vont aller au paradis et qu'ils auront 72 vierges perpétuellement revirginisées. C'est pas la même chose que les
parce que Olivier Roy, oui. Pardonnez-moi, Gilles Kepel.
Oui, bien sûr.
Olivier Roy, justement, évoquait le très faible degré de connaissance religieuse de ces individus et on voit bien finalement que on a affaire à des trajectoires qui statistiquement semblent être bien souvent les mêmes. Autrement dit, est-ce le salafisme qui est responsable ou un certain nombre de slogans ou de discours mal digérés vus sur internet?
Je vous conseille, enfin je ne vous le souhaite pas, mais je vous conseille d'aller en prison, Guillaume Erner, non pas pour
pas,
y être enfermé,
dans l'immédiat,
bien sûr, c'est très difficile aujourd'hui, la situation est extrêmement tendue. On voit bien, on voit très bien le processus se faire dans cet incubateur. Moi j'y suis allé, ça m'a valu quelques-uns de mes ennuis je pense, mais et mes étudiants y vont beaucoup. On voit bien comment vous avez des gars effectivement qui peuvent être des petits braqueurs de banlieue, ceux dont on parlait tout à l'heure, bon, qui se retrouvent, qui ont dealé du shit, qui se retrouvent là ou qui ont fait quelque chose de plus grave. Et puis vous avez les entrepreneurs du salafisme djihadisme qui sont là et qui leur expliquent si tu as fait une bêtise, en fait c'est pas ta faute, c'est la société qui est xénophobe, raciste, islamophobe, et ta rédemption elle passera par l'engagement dans le djihad et par la connaissance véritable de la religion. Regardez Adel Kermiche, l'assassin du prêtre Jacques Hamel à Saint-Étienne du Rouvray le 26 juillet. C'est un gars qui est issu d'une famille kabyle, avec des sœurs qui ont très bien réussi, qui lui-même a eu de gros problèmes psychologiques, qui bascule au moment de Charlie Hebdo, qui trouve que c'est formidable, qui veut aller en Syrie, il se fait attraper, il est mis en prison pendant un an. On met ce gars de 18 ans en prison avec des salafistes et des djihadistes endurcis, et il ressort en connaissant parfaitement la manière de prononcer en arabe la formulation d'allégeance au calife Abou Bakr al-Baghdadi dont vous avez parlé tout à l'heure, alors qu'il ne parlait pas un mot d'arabe avant, et il a passé tout son temps en prison à se connecter avec un imam salafiste mauritanien qui s'appelle Cheikh Aboul Hassan al-Dodo, qui lui a complètement structuré sa vision du monde. Alors vous avez effectivement un gars qui est larguée au début et qui, par cette la mise en œuvre de cette idéologie, qui lui fournit la base culturelle de la rupture avec la société française. Tous les salafistes ne sont pas des djihadistes et beaucoup d'entre eux détestent les djihadistes. Mais ça fournit le socle, si vous voulez. Or, si on ne comprend pas ces mécanismes, si on ne comprend pas comment les choses se passent, alors on ne fait que du jus de cervelle et des élucubrations. Moi, je m'en fiche de ces trucs-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment fonctionne aujourd'hui le tissu social français et qu'est-ce qui a fait que des mouvements comme la mouvance djihadiste ont réussi quand même à faire en sorte qu'il y a plus d'un millier de jeunes Français de toutes sortes qui sont en Syrie, dont on se demande ce qui va se passer maintenant avec les bombardements.
Gilles Kepel, vous êtes aujourd'hui victime d'une condamnation à mort. Comment l'expliquez-vous ? Pourquoi viser des intellectuels, des universitaires occidentaux ? Pourquoi Daesh a-t-il choisi cette stratégie ? Sidga a une stratégie ?
On ne sait pas très bien si c'est une stratégie, je ne suis pas le seul. Hein. On est plusieurs dizaines dans ce cas. Dans mon cas, c'était la première fois lorsque Garoussi Abadla a poignardé le policier et sa femme, dans une circonstance absolument atroce. Et puis ensuite, on a été tout un nombre à être désignés comme cibles de prédilection des attentats ciblés par ce djihadiste de Roanne, Rachid Kassem, un personnage emblématique qui a été un rappeur dans un groupe qu'il appelait l'Oranais. Oranais, Roanais, ça fait une métathèse, et après être parti en Syrie, en Égypte d'abord, puis ensuite en Syrie, s'est spécialisé, grâce à la messagerie Telegram, dans l'identification, le repérage de jeunes qu'il pouvait manipuler ici, pour les mettre en contact. Et c'est lui en particulier, on en a maintenant la certitude, qui a mis en contact les deux gars de 19 ans qui ont poignardé le père Hamel. C'est également lui qui a joué un rôle fondamental dans cette histoire, heureusement qu'il n'a pas réussi, de commando féminin vert, qui a essayé de mettre une voiture piégée près de Notre-Dame, qui a ensuite poignardé un policier. Et donc, on voit bien comment ces individus s'efforcent d'identifier tous ceux qu'ils veulent détruire parce qu'ils pensent que ça fait du tort à leur cause. Alors, les premières cibles, il faut bien le rappeler, dans la liste, je l'analyse en détail dans le livre, cette liste, parce que cette infographie qu'il fait me semble justement nous permettre de comprendre quel est le logiciel intellectuel, si j'ose utiliser ce mot pour un crétin comme Kassim, comment ils voient la société française, quel est le kaléidoscope à travers ils la voient. Et pour lui, c'est l'expression, si vous voulez, de la revanche d'une sorte de néo-prolétariat contre les classes moyennes. Il faut tuer tout le monde. Qui sont les premières cibles ? Ce sont ce qu'il appelle les apostats. Il faut tuer d'abord tous les musulmans qui ont du prestige, qui pourraient servir de leader, de modèle d'identification et qui ne pensent pas comme les djihadistes.
Et là, la liste est quand même extrêmement large. Je parle de cette catégorie d'individus. Ça va, sauf erreur de ma part, de l'imam de Brest.
Oui, enfin, je ne veux pas dire de qui il s'agit parce que ceux qui veulent se dévoiler le font. Moi, je veux
mais
pas.
En tout cas, il y a un certain nombre d'individus qui sont touchés par cette liste. Et ce qui est très étrange, c'est que on a l'impression qu'il n'y a pas véritablement de logique là-dedans.
Si, il y en a une. La logique, c'est qu'il faut d'abord se débarrasser de tous les musulmans qui ne sont pas dans la lignée des djihadistes. Et après, il faut se débarrasser.
Ce qui fait quand même un certain nombre d'individus.
Bien sûr. C'est pour ça. Mais le djihadisme est extrêmement minoritaire. Mais il a un effet de sidération, si vous voulez. Et ensuite, il faut se débarrasser. Il a un délire où se mélange l'homophobie, l'antisémitisme.
Oui, parce qu'il y a, par exemple, les pédocriminels.
Oui, le réseau pédocriminel de l'Élysée. C'est pour lui, c'est ça qui structure le mal, si vous voulez. Donc vous voyez mélanger là-dedans.
Vous voyez, on a du mal quand même à percevoir la logique, puisque donc la pédocriminalité est considérée par nous.
D'où ça vient, la pédocriminalité ? En fait, ça vient d'égalité et réconciliation, qui sont eux-mêmes mis en cause, d'ailleurs, et attaqués, et condamnés. Mais ça vient de l'extrême droite soralienne. Et on voit bien comment...
qu'il y a des liens ?
Oui, il y a ce que j'ai appelé dans le livre précédent, ça avait fait hurler, des congruences. Hein, entre, à part que Soral, Dieudonné et les autres, eux sont pour Bachar el-Assad, et parce que l'extrême droite, traditionnellement, adorait les régimes baassistes, perçus comme les ennemis d'Israël. Bon, ils n'aiment pas trop les juifs, comme vous le savez. Ils sont maintenant liés à Poutine et tout ça. Donc, mais on voit bien dans ce Salmigondi comment les djihadistes s'efforcent de mobiliser des individus. Et dans ce cadre-là, moi-même et un certain nombre d'autres, parce que on fournit des explications sur le phénomène. Eux, ils ont intérêt à l'écran de fumée, ils ont intérêt à l'occultation. C'est pour ça que la logique islamo-gauchiste m'exaspère, parce que, si vous voulez, au lieu de comprendre les enjeux, ils essayent d'en profiter. Et ça me semble, c'est là qu'il me semble qu'il y a une forfaiture. Mais pour revenir à la prison, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'essaye d'expliquer les choses. Le jour même, le 13 juin, le matin du jour où la Roussi Abada a tué le couple policier, je passais dans une émission de télévision où on me demandait de parler d'Orlando, le massacre qui s'est produit avant. Et vous savez qu'Orlando, le massacre a eu lieu dans un club gay, monté par un djihadiste qui avait par rapport à l'homosexualité, visiblement des problèmes assez complexes à régler. Et j'ai lu en arabe et j'ai ensuite traduit le hadith du prophète qui passe en bande déroulante systématiquement quand on précipite des homosexuels des hauts des immeubles dans le territoire du califat, qui dit vous voyez des gens qui se comportent comme les habitants de Lot, c'est-à-dire de Sodome, alors tuez l'actif et le passif. Et j'ai expliqué en quoi, j'ai lu en arabe, j'ai traduit en français, et j'ai expliqué en quoi ce hadith était considéré par la majorité de la tradition musulmane comme faible ou fabriqué, si vous voulez. Quand je dis une chose comme ça, moi, je dis la vérité, j'énonce des vérités, vérité sociale, si vous voulez, et intellectuelle. Or, évidemment, ça porte tort à la logique des djihadistes qui, eux, disent, c'est nous qui disons le vrai islam. Pareil, en prison, j'ai été invité à venir dans une prison de la région parisienne par des détenus musulmans, comme beaucoup de détenus, vous le savez, non pas que l'islam pousse au crime, mais parce que les gens sont pauvres, on en a parlé tout à l'heure, et c'est là que c'est ça qui remplit les prisons, bien sûr, et qui en avaient marre de se faire endoctriner par les gars qui revenaient de Syrie et qui se présentaient comme nous sommes ceux qui parlent au nom de l'islam, nous savons l'islam. Le détenu de base, lui, il n'a pas les moyens et m'ont demandé de venir pour faire un débat avec eux. Débat, bon, moi j'ai quand même 35 ans d'expérience, j'ai pas peur de la contradiction, je pense pas qu'ils en sont sortis valorisés. Ensuite, des écoutes téléphoniques, parce que tous ces gars ont des téléphones en prison, bien sûr, j'ai compris que, on m'a dit que le... ils avaient fait passer le message que j'étais vraiment quelque chose dont il fallait se débarrasser, si vous voulez. Alors après, comment c'est passé? Moi, j'interviens dans le débat public, c'est mon rôle d'intellectuel. J'interviens en apportant la connaissance que vous avez appelée, celle dont on peut appeler de l'islamologie, de l'orientalisme. Les étiquettes n'ont aucune importance. Mais il me semble que c'est ça mon rôle social. Je suis payé par l'État, par le contribuable, pour produire de la connaissance. Après, je peux m'exprimer d'une manière ou d'une autre, mais ce qui est important, c'est que dans le cadre du débat présidentiel, se soit informé. J'entendais votre chroniqueur tout à l'heure qui faisait, c'était très intéressant, j'ai pas écouté Mediapart hier soir, comment Macron a réussi finalement à tordre Mediapart qui lui est hostile dans l'autre sens. Moi, j'ai regardé le dernier débat de la primaire, je sais pas ce que donnera ce soir, j'étais consterné. Mon fils qui est en quatrième a cru que c'était un jeu télévisé. Question pour un mot qui finit par « on » et que vous pourrez décliner comme vous voudrez. C'était affligeant. Vous aviez un ancien président de la République, deux anciens premiers ministres, qui avaient une minute, et bon, on peut pas le montrer à la radio, si on avait l'impression que le type l'ait appuyé, vous voyez, sur le bouton, c'est « pout », crochet, dehors. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? On a quand même besoin d'un débat de qualité. Moi, j'essaye d'intervenir en donnant de la qualité dans le débat pour la présidentielle. Je sais pas si je vais y arriver, mais c'est, en tout cas, j'essaye.
Gilles Kepel, dernier élément et pas des moindres aujourd'hui dans l'actualité, ce qui est en train de se dérouler à Mossoul. Que pensez-vous de la situation? Qu'est-ce qui est à venir selon vous?
Le véritable enjeu, il y en a deux, sur place, c'est qui va prendre la place de l'État islamique dans son territoire. Je pense que son territoire ne peut plus maintenant marcher. Il va être démantelé et, comme votre chroniqueur l'a bien dit tout à l'heure, le problème, c'est que vous avez des Kurdes, vous avez des Turcs, vous avez des chiites, vous avez des Arabes sunnites et il va falloir trouver un modus vivendi pour la cohabitation de ces populations et surtout un projet. Un projet dans un Moyen-Orient où le pétrole est maintenant durablement, semble-t-il, fixé au maximum à $50 le baril, ce qui n'est pas viable pour financer des économies qui sont dans une logique de dépendance complète, où il n'y a plus de création de richesses et où l'explosion démographique dépasse toute proportion. Avec des États qui sont ruinés, des villes qui ont été bombardées, la Syrie est en morceaux. Donc ça, c'est un problème énorme. Premièrement. Mais il y a un problème aussi pour nous, je vous parlais de nous, c'est qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les conséquences. Parce qu'on peut... Les attentats de 2016, dans le livre, j'essaye aussi de montrer la logique des différents attentats. Pourquoi il y a des attentats si vous voulez, du pauvre, ceux qu'incite Rachid Kassem avec des couteaux de cuisine, avec un camion, qui peuvent être celui de Nice, un effet, un ratio, si j'ose dire, extraordinaire de réussite, plus ou moins, par rapport à l'investissement. 86 morts pour avoir loué un camion, simplement. J'essaye de montrer comment ça s'inscrit après le Bataclan, parce que le Bataclan a été une catastrophe en termes du nombre de morts, mais ça a été un échec du point de vue des djihadistes pour la mobilisation. Au Stade de France, s'ils avaient réussi à faire sauter leur bombe, leur ceinture explosive, ils auraient tué, c'est ce qu'on m'a dit, l'ont dit les détenus musulmans en prison. Ils m'ont dit, mais mon frère, il était au Stade de France ce soir-là, les copains du quartier, ils étaient là, qu'est-ce que c'est que ces types, c'est des barjots. Donc, si vous voulez, ils ont un véritable problème, ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce que tous les attentats de 2016 ont été revendiqués en quatre lignes en arabe dans le site Armak al-Akhbariya, c'est-à-dire du plus profond de l'info, qui est l'AFP, si j'ose dire, de Daesh, et qui dit tel attentat a été revendiqué par un soldat de l'État islamique en rétorsion contre le bombardement de la coalition croisée sur le califat. Donc, pour eux, c'est un enjeu majeur. Ils meurent d'envie, effectivement, de créer un attentat massif en rétorsion en Europe, bien sûr, dans des pays où il y a une fragilité, dans le monde des réfugiés en Allemagne, d'où je reviens, où il y a une énorme inquiétude sur cette question, et bien sûr en France, parce qu'il y a un certain nombre d'opérateurs. Est-ce que ça va se produire ou non? Espérons que non, mais c'est la volonté, en tout cas, de ces groupes.
Et pour la situation internationale, puisque donc vous avez dit que aujourd'hui la situation était telle que la question était de savoir qui allait remplacer l'État islamique, est-ce que vous pensez que fonctionnellement il va mécaniquement être remplacé par une autre force, peut-être Al-Qaïda, qui reprend le dessus, en tout cas qui est très présent en Syrie? Est-ce qu'on va avoir droit à une politisation de la situation, puisque finalement l'une des questions posées par Daesh, c'est qu'on a affaire à une organisation millénariste avec laquelle il n'est pas possible de négocier. Peut-être qu'il serait possible de négocier avec le successeur éventuel de Daesh.
Oh, je ne pense pas qu'on ait Al-Qaïda qui revienne. Al-Qaïda a perdu le tempo de la situation, si vous voulez. Al-Qaïda appartient désormais au passé. Il y a des groupes qui s'en réclament plus ou moins, qui sont mêlés avec d'autres, qui ne tiennent que parce qu'ils ont eu des soutiens syriens, des soutiens venant de certains milieux turcs et des soutiens financiers d'États du Golfe, si vous voulez. Mais je ne pense pas que ce soit eux qui le vendent en poupe aujourd'hui. La question, c'est la façon dont l'alliance entre la Turquie et la Russie aujourd'hui, l'axe Poutine-Erdogan, si vous voulez, réussit à faire passer sa stratégie dans une période de très grand affaiblissement de la décision politique américaine. On va bien voir qui sera élu, c'est demain, c'est ça? Mardi, excusez-moi, j'ai perdu la chrono, le 8, je ne sais plus quel jour on est.
Mardi prochain, nous serons d'ailleurs aux États-Unis pour...
Voilà. Et donc, je crois que c'est ça qui sera le véritable enjeu. Faire des conjectures avant, ça me semble irresponsable.
La fracture, c'est le livre que vous publiez, Gilles Kepel, une coédition Gallimard.